Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique présenté par Alain en partenariat avec l'Observatoire Astronomique d'Agnan, qui une fois encore a une invitée de marque dans cette émission avec l'astrologue Véronique Wagner. Bonjour.
Bonjour Alain.
Alors, eh bien, on va reparler d'astronomie et d'astrologie, hein, puisqu'on a un événement aussi à l'Observatoire à la fin du mois.
Oui, avec joie.
Voilà, donc ça permet déjà d'une part de refaire ce lien entre l'astronomie et l'astrologie, et un lien qui sera d'ailleurs développé à la fin du mois. Alors, on va peut-être déjà commencer, même si on l'a déjà fait dans une précédente émission, peut-être reparler un petit peu de ce que c'est l'astrologie. D'ailleurs, je te laisse la parole. Qu'est-ce que l'astrologie, finalement ?
Oui, alors, je reprécise, même si peut-être quelques auditeurs l'avaient entendu, que nous dissocions astrologie et horoscope, n'est-ce pas ? Puisque l'astrologie, c'est véritablement un art d'interprétation des astres, au sens propre. Donc, on a dans le mot astrologie le logos, qui signifie langage ou sens. Donc, à proprement parler, l'astrologie, c'est le langage des astres. Donc, il va s'agir de donner du sens à ce qu'on observe.
Ok, et bien du coup, je vais donner une petite définition astronomique de ce que l'astronomie. Alors l'astronomie, eh bien c'est toujours, on parle toujours des astres, mais c'est véritablement d'observer les astres et surtout de les nommer. Alors aujourd'hui, on dissocie l'astronomie de l'astrophysique, c'est-à-dire les calculs à proprement parler, par exemple de la position des planètes ou de certains phénomènes astronomiques. Donc l'astronomie, c'est plus le côté observationnel de cette science. Nous, on est vraiment là pour observer le ciel, mais à l'époque, les astronomes étaient aussi des astrologues.
Effectivement, c'est ce qu'on sait beaucoup moins, puisque c'est pas resté, on va dire, dans la culture générale. Ça a été peut-être même un petit peu, je dirais, mis de côté. Or, on sait, historiquement, on le cite toujours, que notamment le grand astronome Ptolémée était aussi astrologue. Il a d'ailleurs laissé deux ouvrages majeurs, on l'avait nommé, je crois.
Voilà, bien, déjà le premier, entre guillemets, c'est en cela qu'il est très connu, c'est puisque Ptolémée a fondé, on va dire, les bases de l'astronomie moderne, alors notamment parce qu'il a pu récolter dans une encyclopédie qu'on appelle l'Almageste toutes les connaissances astronomiques de l'époque et de d'ailleurs diverses cultures, qu'elles soient grecques, égyptiennes ou plutôt arabes. C'est notamment, on va dire, une grande base de l'astronomie moderne. Même si, évidemment, elle était entachée de certaines erreurs, puisqu'à l'époque, on pensait que toutes les planètes tournaient autour de la Terre, et que cette vision-là a été revue par la suite. Mais, il est aussi à l'origine de Tétrabiblos.
Oui, Tétrabiblos, qui est pour nous aussi une sorte, justement, de Bible de l'astrologie, pour le coup, il a quand même, là, pour le coup, regroupé tous les savoirs anciens astrologiques qui, sinon, ne seraient pas passés à la pérennité. Ptolémée, il a rassemblé tous les savoirs astrologiques, qu'ils soient grecs, chaldéens et même égyptiens, et qui fait qu'on a pu en hériter ensuite et pouvoir, bien évidemment, le faire évoluer et s'enrichir au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, pour nous aussi, nous avons le même, finalement, personnage référent par rapport à notre pratique. Donc, ce qui est difficile d'envisager à notre époque actuelle où nous avons un esprit un petit peu coupé en deux, c'est qu'à l'époque pour eux, ça allait ensemble, c'était unitaire le fait de faire de l'astrologie, de l'astronomie. Pour eux, il n'y avait pas de questions en fait, contrairement à aujourd'hui.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que nous aujourd'hui, les astronomes ne sont plus des astrologues. Il est vrai que moi, je m'y intéresse, donc je commence, même si, évidemment, je ne peux pas me considérer astrologue. Mais c'est vrai que c'est quand même une pratique et un domaine qui est extrêmement intéressant. Donc on disait, hein, parmi les grands scientifiques, hein, qui étaient à la fois des astronomes et des astrologues, on a parlé de Ptolémée. Alors dans la dernière émission de mémoire, je crois qu'on avait évoqué Kepler, qui est aussi un très grand astronome et qui était aussi un astrologue. Et puis une autre personne, hein, qu'on connaît très très peu, hein, Galilée, pour ne pas le nommer, était aussi à la fois un astronome et un astrologue. Hein. On connaît évidemment Galilée pour sa révolution qui l'a permis de mettre en place, notamment, hein, de réfuter les connaissances de l'époque, à savoir que, eh bien, les planètes tournaient autour de la Terre. Il a pu confirmer par l'observation, donc par l'astronomie, que les planètes tournent autour du Soleil, comme l'avait prédit Copernic. Et ça, c'est par l'observation. Mais il était aussi un très très grand astrologue, hein, notamment. Est-ce que tu as des... Est-ce que, par exemple, il y a des choses qu'il a fait en astrologie qui sont marquantes ou pas, ou en, voilà.
Alors, moi, je n'ai pas forcément la connaissance de ça, si ce n'est, hein, que nous savons, nous, qu'effectivement, il montait ce qu'on appelait à l'époque des horoscopes, d'où d'ailleurs la confusion aujourd'hui avec les horoscopes de journaux. L'horoscope avant désignait le fait de poser... hein, à plat, les éléments de naissance d'une personne, c'est-à-dire le ciel de naissance, comme on l'appelle, hein, puisque l'astrologue part aussi d'une base qu'on appelle la carte du ciel. Encore un terme, je crois, que nous avons en commun.
Oui, oui.
Voilà, la carte du ciel en astrologie, eh bien, bien sûr, Galilée en faisait aussi pour lire le ciel des personnes, puisque l'astrologie, hein, c'est dire le ciel des uns et des autres, puisque, pour venir un petit peu sur le sujet de l'astrologie, c'est vrai qu'on le connaît davantage... j'allais dire malheureusement par les horoscopes, hein, qui sont une partie de l'astrologie, on va presque dire déviante pour nous, mais à l'origine, hein, l'idée était de pouvoir renseigner les personnes, hein, sur, bah, tiens, quel était l'état du ciel au moment où vous êtes né, et qu'est-ce que ça raconte de vous, non pas en termes de fatalisme, non pas en termes d'enfermement, mais en termes de traduction, encore une fois, et de langage, comme si on pouvait lire l'être humain, en fait.
Oui, alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne connaît pour beaucoup l'astrologie qu'à travers les horoscopes, hein, justement, que tu décris, hein, dans les journaux, entre autres. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'horoscope, c'est uniquement ce domaine de l'astrologie, entre guillemets, alors qu'à l'époque, hein, effectivement, c'est ce que tu disais, ça avait une toute autre dimension. Ce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que vous appelez, vous, le thème natal.
C'est ça.
Voilà, aujourd'hui, on l'appelle ainsi, mais à l'époque, on l'appelait l'horoscope.
Alors, c'est là la confusion, c'est qu'en fait, ce terme horoscope, aujourd'hui, pour nous, hein, occidentaux, est connu sous la forme, comme je le disais, de ce qu'on va entendre et lire partout. À l'époque, ça n'avait pas le même sens. Hein. L'horoscope, c'était le premier nom de la carte du ciel dont je parlais. Et donc, ce que tu nommes le thème natal, en fait, hein, c'est, comme je disais, le répertoire des planètes au moment de la naissance de quelqu'un. Et c'est là où se porte toute la confusion de ce qu'on comprend de l'astrologie, puisque ce qu'on en comprend, c'est que, ah, ça va être quelque chose qui va nous enfermer dans un fatalisme, alors qu'au contraire, l'astrologie va nommer la façon dont la personne fonctionne. Donc, ce sont en fait des domaines de fonctionnement, dans, par exemple, notre santé, notre sphère affective, notre sphère professionnelle. Et c'est là où, effectivement, hein, il y a une dynamique, hein, une porte, je dirais, à pousser ou à passer pour comprendre un petit peu de quoi ça parle, hein, puisqu'on a tellement cette idée horoscopienne, un peu Madame Soleil, Bonne Aventure, voilà, que c'est compliqué de revenir à l'origine de ce dont ça parle.
Voilà, et parmi aussi les grands scientifiques, hein, qui ont été probablement des astrologues. Alors, je dis probablement parce que j'ai parlé du cas de Newton, qui est assez intéressant, puisque Newton, en lui-même, est très connu pour ses grands travaux scientifiques, hein, notamment la loi universelle de la gravitation en tant que telle, mais il a fait aussi beaucoup de travaux en optique. Hein. Les astronomes utilisent des télescopes dits de Newton, hein, la formule optique de Newton. Mais à sa mort, on a découvert, eh bien, que dans sa bibliothèque, il y avait énormément d'ouvrages à la fois dans le domaine de l'ésotérisme et de l'astrologie. Donc c'était probablement un personnage qui s'intéressait énormément à ces domaines-là, mais par contre, il ne l'était pas officiellement. Et alors, c'est probablement qu'il a étudié l'astrologie peut-être pour son compte, pour faire des recherches, entre guillemets. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des astrologues qui ne font finalement que de la recherche ?
Oui, sans doute, hein, parce que le fait de donner, en fin de compte, des séances astrologiques de lecture pour les personnes, c'est aussi pour nous un métier, donc un moyen de subvenir, en fait, hein, à nos besoins. Mais il y a des personnes, vraiment, qui ne font que de la recherche. Je sais que moi, la personne qui m'a enseigné l'astrologie, aujourd'hui, ne fait que de la recherche, en fin de compte, puisque c'est un domaine qui est infini, quasi, hein, qui est très vaste, etc. Et pour le cas de Newton, voilà, je souhaiterais peut-être préciser aussi qu'il y a une question d'époque, parce que, voilà, étant quand même dans une période trouble où il ne faisait pas bon vent pratiquer ce genre de discipline, je pense qu'il n'avait peut-être pas intérêt non plus, hein, à divulguer ses pratiques, me semble-t-il. Voilà, ce qui est intéressant, c'est peut-être de nommer, je crois que tu as lu dans tes recherches, hein, quelque chose, une phrase qu'il aurait eue.
Oui, alors effectivement, alors la vraie phrase, hein, c'est qu'il répondait à Edmond Halley, qu'il avait un petit peu apostrophé sur le domaine des religions et, comment dire, de l'ésotérisme. Et donc, il lui avait répondu, mais moi, j'ai étudié cela, pas vous, sir. Et donc voilà, il ne fait pas référence officiellement à l'astrologie comme on peut le lire parfois, hein. Ça, c'est vrai que certains disent, mais voyez, Newton avait étudié l'astrologie. Non, le contexte est un petit peu différent. Là encore, il faut toujours se méfier des sources et de ce qui est, de ce qui est vraiment dit. Mais preuve que voilà. Alors par contre, effectivement, Newton n'a pas fait d'horoscope en tant que tel, et il ne l'a pas fait probablement aussi parce que il n'avait pas le besoin de le faire. Ses revenus étaient assurés, sa subsistance était assurée, donc il ne le faisait pas. Galilée le faisait, lui, on le sait, pour subvenir, ses besoins, tout simplement. Hein. Mais par contre, il le faisait en étant convaincu que l'astrologie était un art tout à fait viable. Mmh. Alors que d'autres, hein, déjà à l'époque, étaient un petit peu décriés parce que justement, ils tombaient un petit peu dans ce côté un peu opportuniste et de dire, on va faire de l'astrologie pour prédire ceci ou cela. Et c'était d'ailleurs décrié à l'époque, hein, par nombre d'astrologues et d'astronomes. Hein,
c'est voilà. Ça, c'est que ça n'a pas changé aujourd'hui. Voilà, nous, astrologues, nous sommes aussi très dépités de voir ces fameux horoscopes. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ce qui traîne, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pardonnez-moi, sur les réseaux, hein, en termes de prévisions, prédictions astrologiques populaires, mais qui sont pas OK pour nous, quoi.
Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et de RPH Sud, vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Alain de l'Observatoire Astronomique d'Agnane. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Véronique Wagner, avec qui nous évoquons les liens entre l'astronomie et l'astrologie. Et donc, après avoir parlé un petit peu de la définition de l'astronomie et de l'astrologie et des points, de quelques points historiques, eh bien, on va parler d'autre chose, puisque j'ai cru comprendre que l'astrologie parlait de symboles. Mais alors, il faudrait peut-être développer un petit peu cette symbolique.
Absolument. Alors, il se trouve que dans l'émission dernière, hein, nous avions pas mal parlé du zodiaque. Hein, donc, nous n'aurons pas, je pense, aujourd'hui le temps de renommer tout ça. Par contre, si vous venez à la rencontre astronomie-astrologie le 26 octobre prochain à l'Observatoire, hein, nous pourrons en reparler. Aujourd'hui, peut-être, hein, j'avais idée de vous parler de la symbolique au niveau des planètes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en astrologie, nous avons besoin, nous aussi, de la position des planètes, hein, d'où le fait que les astrologues ont besoin aussi de connaissances astronomiques, même s'ils ne se prétendent pas astronomes. Il y a nécessité, hein, de savoir lire un éphéméride et de savoir où se place une planète. Et donc, ce qui est vraiment riche, hein, c'est que chaque planète va avoir justement une traduction. Donc, ce qui est assez, fort, hein, dans la façon, dans la continuité dont les choses se sont passées, c'est que les planètes, elles ont pris des noms, comme on le sait, qui sont en lien avec la mythologie. Donc il y a, hein, bien sûr, hein, vous le savez, tout un tas de personnages, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, qui sont en réalité des planètes, hein, nommées ainsi en référence à ces personnages. Donc là, pour vous donner un exemple aujourd'hui, hein, peut-être on pourrait évoquer deux planètes, si ça convient, Alain.
Oui, alors moi j'ai pensé à Mars et Vénus parce que c'est quand même des planètes qui sont connues, je dirais, du plus grand nombre. Alors évidemment, les autres, hein, comme Mercure, Jupiter, Saturne, sont aussi connues, mais je pense que, en termes de symbolique, ça peut être quand même assez intéressant de parler de Mars et Vénus. Dis-moi si je me trompe.
Non, non, bien sûr, parce que c'est les référentes voilà, que tout le monde connaît habituellement. Et pour cause, hein, je crois qu'elles sont vraiment témoignes de la manière dont justement l'héritage symbolique se crée. Alors, le symbolisme, hein, par exemple, de Vénus, il est assez connu. Hein, quand on parle à Vénus, de Vénus à quelqu'un, tout le monde ne va pas être étonné, hein, de se dire, tiens, on parle de quelque chose qui va être peut-être éventuellement lié à la beauté, au féminin, à l'esthétique ou à l'amour. Voilà, hein, Vénus, tout le monde comprend, en fait. Et c'est bien là la trace, hein, qu'on a beau être en 2024, la symbolique de Vénus, elle est toujours vivante, elle est toujours parlante dans les esprits.
Oui.
Pourtant, ça date de l'Antiquité.
Mmh, hein, totalement.
Mais c'est ça qui est assez étonnant. Et donc, si je dis Vénus, hein, beaucoup de personnes vont avoir dans l'esprit ben, le magnifique tableau de Botticelli, hein, la Vénus sortant des eaux sur son coquillage. Et ben, je lisais là encore il y a quelques jours qu'il y a un nouveau parfum de Nina Ricci qui vient de sortir. Je vous le donne en mille, il s'appelle Vénus. Ils ont repris le coquillage doré. Voilà, donc ça montre qu'il y a un fil conducteur de l'Antiquité à aujourd'hui dans cette symbolique. Pour tout le monde, ça fait tilt. Et donc, pour nous, en astrologie, c'est la manière dont on va interpréter. Donc, par exemple, la position de Vénus dans une carte du ciel natal va nous indiquer bah, quelles sont les prérogatives de la personne, comment elle va vivre sa vie affective. Non pas en termes de prédiction, mais en termes de nature de la personne. Nous n'avons pas tous la même manière d'aimer, par exemple. Ou bien pour une femme, hein, ça va être l'indication de, tiens, quelle est naturellement son féminin. Il y a différentes façons d'être femme. Donc, en ce sens, l'astrologie donne une possibilité de mieux se connaître. Voilà le réel, je dirais, sens de l'astrologie. C'est faire rencontre avec soi à travers la symbolique de ces planètes. Bon, pour Vénus, ça va, j'imagine. C'est assez clair.
Oui, c'est assez clair. Et alors, pour Mars, du coup, on peut s'interroger aussi. Alors, Mars, moi, du peu que je connais, Mars, quand même, représente le masculin, pour le coup.
Tout à fait.
J'imagine que c'est plus ou moins la même chose en astrologie.
Alors, oui et non, j'allais dire, hein, je vais expliciter. Donc, Mars, à la base, hein, c'est le dieu guerrier, Arès,
oui.
Hein, chez les Grecs.
Complètement.
Voilà, et donc, par définition, nous, on va prendre une symbolique et on va l'étayer, c'est-à-dire qu'il y a tout un éventail. Donc, si aujourd'hui, tout le monde n'a pas un esprit guerrier, on n'est pas tous ou samouraïs ou soldats, hein, n'est-ce pas ? Tout le monde va avoir besoin d'une forme de vitalité. Hein. Donc, Mars va représenter, quelque part, la vitalité physique, la forme. Et donc, de ce fait, hein, on va avoir aussi des exemples hein, dans cette symbolique qui a perduré depuis l'Antiquité. Par exemple, les arts martiaux. Étymologiquement, ça vient de là. On n'y pense pas,
oui.
Mais
oui.
Ça va représenter la façon dont quelqu'un va pouvoir, ou pas, développer sa forme physique. Et puis, un exemple, je dirais, presque amusant, hein, quand vous prenez des références de publicité, alors évidemment que les moins de 20 ans hein, ne connaîtront peut-être pas, mais pour nous qui avons un peu plus de 20 ans, rappelez-vous de un Mars et ça repart, hein, les bars Mars, voilà, ben, n'empêche, hein, ça a la même symbolique que ce que nous utilisons, nous, en astrologie, pour parler de la vitalité de quelqu'un. Donc, Mars représente à la fois le masculin, oui, mais Mars va représenter aussi la vitalité physique, même chez une femme, hein, de la même manière que d'ailleurs Vénus peut représenter l'esthétisme chez un homme. Ses goûts en matière d'art, par exemple, voilà, hein, les deux peuvent être applicables. Il n'y a pas de dualité en astrologie.
Oui, oui, voilà. Et du coup, je reviens sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, et je crois que moi, c'est ce qui m'a mis le plus de temps à comprendre dans l'astrologie, c'est que tu as indiqué hein, qu'il n'y avait pas de déterminisme.
Et non.
Et voilà, donc ça, peut-être que ça peut être un point aussi qui serait intéressant peut-être à développer un tout petit peu.
Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, cette histoire de déterminisme, encore une fois, hein, sans vouloir toujours tirer sur la même cible, mais c'est vrai que ça vient, encore une fois, de ces lectures d'horoscope où on vous dit « il va se passer ci et mi ». En astrologie, c'est pas comme ça qu'on travaille. On va se dire « ok, telle planète va signifier telle chose. Donc potentiellement, voilà l'éventail de la manière dont on peut le vivre. Mais ça doit rester ouvert, ça doit rester un éventail des possibles. Alors c'est difficile de donner des exemples sans rentrer dans véritablement hein, la carte du ciel ou la façon dont on fonctionne. Voilà. Mais par exemple, je vais donner un exemple tout bête, on parlait de Vénus. Hein. Mmh. Vénus, par exemple, si quelqu'un a Vénus dans le signe du scorpion dans sa carte, ça va vouloir dire que la personne a plutôt tendance à aimer rester assez mystérieux, assez discret sur ses relations intimes, ne pas parler forcément à tout le monde hein, de qui est sa compagne, son compagnon, il va y avoir tout un côté discret, voilà, c'est un peu l'idée. Hein, alors que quelqu'un qui aurait une Vénus, par exemple en Lion, va se pavaner et montrer qui est sa compagne, son compagnon. Voilà, c'est plus dans ce sens qu'on va avoir un étayage des possibles hein, et non pas un déterminisme. Ça ne va pas vouloir dire « Ah, tu vas rencontrer forcément telle ou telle personne ou tel type de personnage ». Il y aura toujours un éventail voilà, des possibles.
Oui, alors aussi un point, alors même si là, on fait référence à une planète différente, mais je crois que c'est aussi pour montrer hein, toute cette différence. Il y a quelques années en arrière, eh bien, Uranus était rentré en taureau. Mmh. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait prédit des catastrophes d'ampleur, catastrophes naturelles d'ampleur très, très importantes, etc. Et ça avait commencé notamment avec les feux gigantesques en Australie. Et puis, c'était l'année 2020. Et puis, est apparu le Covid.
Yes.
Et là, je pense qu'on voit ça. Personne ne l'a vu venir. Je pense d'ailleurs, enfin, je crois pas que des astrologues aient prévu, justement, ils ne le prévoient pas, ils font pas de la voyance.
Non.
Mais l'arrivée du Covid, mais ça montre hein, toute cette panoplie hein,
Ah oui, mais alors là, tu évoques complètement autre chose qu'on appelle l'astrologie mondiale. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va repérer, c'est des cycles. C'est-à-dire, on sait que quand telle planète, alors bon, c'est très technique, hein, mais une planète collective, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui va concerner tout le monde, hein, des générations entières, va passer dans tel ou tel signe, symbolique, j'entends, il va pouvoir y avoir quand même un assortiment de possibles, hein, mine de rien. Donc, nous, on s'attendait quand même à ce qui est du remue-ménage.
Oui,
On ne pouvait pas dire il va y avoir ça, parce qu'on ne peut pas deviner, hein, ce n'est pas de la voyance, qu'il va y avoir, par exemple, un virus. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup amusé après coup, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que, mine de rien, on a quand même, possiblement, hein, l'idée que le virus venait d'animaux. Donc, en astrologie, le taureau est lié aux animaux. Donc, Uranus taureau et un virus qui vient des animaux, ça peut avoir pour nous symboliquement un rapport. Voilà, c'est la manière dont on observe. D'où la recherche possible en astrologie de regarder les cycles passés pour voir qu'est-ce qui pourrait se produire après, effectivement.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai évoqué hein, ce point-là parce que je dirais que, à titre personnel, c'est un des éléments qui m'a permis de faire la distinction entre le fait que ce n'est pas du déterminisme et que c'est de la symbolique.
C'est ça.
Et je pense que, enfin, à titre personnel, voilà, après, ça peut ne pas parler à d'autres personnes. Hein. Les symboles ne parlent pas à tout le monde. Hein.
C'est ça. On en parlait avant l'émission. Oui.
Voilà, donc c'est pour ça que je prends cet exemple, parce que ça peut-être aussi parler justement à certaines personnes.
Mais oui, tout à fait, parce que par exemple, si on prend la symbolique du taureau, le taureau parle de tout un tas de choses en fait, hein, et notamment aussi de tout ce qui va être des ressources, de tout ce qui est monétaire, de l'argent. Donc effectivement, nous, on sait que si Uranus va rentrer en taureau, il peut y avoir potentiellement des problèmes sur les plans bancaires, sur la nature, sur l'écologie. Voilà, on va avoir toujours un panel de possibles, jamais un déterminisme en fait. Si c'est ça que tu évoques.
Voilà, tout à fait, oui. Alors, on disait, hein, l'astronomie, l'astrologie et les astronomes étaient à l'époque un petit peu les deux. Alors, on va parler maintenant, on va s'orienter un petit peu plus sur le côté astronomique et on va parler des éphémérides parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a plusieurs éléments dont on va faire référence. Vous avez peut-être observé les aurores boréales hein, qui ont été visibles très largement dans une grande partie de la France, y compris chez nous dans le sud, autour du lac du Salagou, dans la vallée de l'Hérault, à Montpellier, etc. On a pu les observer. Et puis il y a effectivement, on va en reparler un petit peu plus en détail, de la comète hein, et que je vais aborder un petit peu plus tard. Alors pour rentrer sur des choses hein, très astronomiques, eh bien La nouvelle lune aura lieu le 1er novembre, et c'est autour de cette période-là qu'il est intéressant d'observer le ciel, notamment parce que eh bien, la lune n'éclaire pas le ciel, donc pour ceux qui voudraient observer dans un ciel de bonne qualité, eh bien, il faudra choisir cette période, les quelques jours hein, autour de la nouvelle lune, donc du 1er novembre. Et la pleine lune se produira eh bien, 15 jours plus tard, hein. Ce sera le 15 novembre, et elle est surnommée la pleine lune des castors. Et là encore, on va rentrer dans le côté astrologique de la symbolique, hein, pour d'où elle tient son nom. Eh bien, c'est tout simplement que c'est une symbolique amérindienne, hein, qui nous vient des Amérindiens, qui avait noté qu'à cette saison, les castors sont particulièrement actifs pour se préparer au retour du froid. Et c'est là qu'ils font leur... ils sont particulièrement actifs, notamment pour faire leur réserve de nourriture et créer ces fameux barrages. Hein. Là encore, la symbolique, c'est un symbole assez fort des castors. Et donc ce mois-ci, elle sera aussi hein, encore taguée de super lune.
Tous les mois presque.
Voilà, ça va peut-être finir comme ça à une époque. Hein. On avait déjà évoqué le sujet dans la précédente émission. Donc côté planète, hein, justement, quelles sont les planètes hein, qu'on pourra voir dans le ciel ce mois-ci? Alors la belle période planétaire, eh bien, bat son plein. Alors Mercure n'est en pratique pas observable sous nos latitudes. Il faut être, comme d'habitude, hein, sous les tropiques pour l'observer dans de bonnes conditions. Vénus, dont on parlait justement hein, à l'instant, eh bien, s'observe de mieux en mieux côté ouest, hein, donc à l'endroit où se couche le soleil au crépuscule. Hein, vous ne pourrez pas la manquer, c'est un astre particulièrement brillant, et donc qui s'observe pour l'instant hein, au coucher du soleil. Et on va vraiment vers la très belle période hein, d'observation de Vénus, donc ça sera de mieux en mieux au fil des mois. Mars et Jupiter sont superbes, hein, quasiment toute la nuit. Jupiter se lève en tout début de nuit, maintenant aux alentours des 21-22 heures. Hein, on commence à la voir se lever et elle nous suit hein, pendant toute la nuit. Saturne, elle, est visible en première partie de nuit, elle se couche en deuxième partie de nuit, hein, un peu après minuit actuellement. Et Uranus et Neptune sont également visibles quasiment toute la nuit. Alors par contre, pour Uranus et Neptune, il vous faut des instruments hein, pour les observer. Alors au moins des jumelles pour Uranus et un télescope pour Neptune. Alors que toutes les autres planètes hein, dont j'ai évoqué, hein, que ce soit Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, eh bien elles sont visibles à l'œil nu. Hein, c'est aussi pour ça qu'elles sont connues depuis, entre guillemets, la nuit des temps.
Et effectivement, c'est pour ça que ce sont les planètes référentielles aussi en astrologie.
Voilà, alors les 4 et 5 novembre, on a le jeune croissant lunaire qui rend visite à Vénus. Là aussi, beaucoup de symbolique, hein, du peu que je connais de l'astrologie. Les 10 et 11 novembre, eh bien, la Lune va rendre visite à la planète Saturne. Elle sera à proximité de la planète Saturne. Et le 17 novembre, ce sera le maximum des Léonides, des étoiles filantes hein, qu'on peut voir dans le ciel. Alors, normalement, c'est une quinzaine d'étoiles filantes par heure. Ça peut monter jusqu'à une centaine. Hein, c'est très variable, d'où le fait que ce soit un essaim météoritique très intéressant. Alors, cette année, ça coïncide, hein, si vous avez bien suivi, avec la période de pleine lune. Donc, c'est quand même pas la meilleure période pour observer les Léonides cette année. Et donc, je reviens sur les aurores. Hein. Souvent, plein de gens m'ont dit « Mais Alain, quand est-ce qu'on pourra en voir de nouvelles ?» Eh bien, on ne le sait pas. Les aurores hein, de la semaine dernière, on les avait prévues, puisque quelques jours avant, hein, le 8 octobre, une énorme éjection de masse coronale solaire avait eu lieu. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des aurores. Maintenant, on ne sait pas forcément quelle va être l'intensité, on peut le prédire plus ou moins, mais il y a eu énormément de déceptions cet été avec des phénomènes précédents, et puis au final, il ne s'était rien passé, en tout cas chez nous, hein, dans le sud de la France. Donc voilà pourquoi c'est très, très aléatoire, il faut simplement être à l'affût, entre guillemets. Et évidemment, c'est la star de ce mois-ci, c'est la comète Tsuchisan Atlas, une magnifique comète hein, qu'on peut voir depuis le week-end dernier. Donc toute la semaine dernière, on a déjà pu commencer à l'observer dans le ciel. Alors là, en ce moment, il faut aussi jongler avec la météo, parce que même si j'ai pu l'observer le dimanche, mine de rien, ça a été un petit peu un coup de bol par rapport à la météo. Elle va s'observer pendant tout le mois, hein, donc là encore côté ouest, hein, à l'endroit où se couche le soleil, dans les lueurs du crépuscule. Et elle sera visible probablement à l'œil nu jusqu'à la fin du mois, et ensuite aux jumelles. D'ailleurs, même si elle est visible à l'œil nu, vous pouvez l'observer aux jumelles, elle est absolument magnifique. Et donc, il y a peut-être une autre comète, hein, c'est 2024 S1 Atlas, qui serait visible à l'œil nu le 28 octobre, pendant quelques heures seulement, en plein jour. Et pour cause, ça pourrait devenir la comète la plus brillante de l'histoire. Le problème, c'est que cette comète, le 28 octobre, elle va être très très proche du Soleil, à seulement 1 million de kilomètres du Soleil. Pour rappel, hein, Mercure, la planète la plus proche, est à 50 millions de kilomètres du Soleil. Et donc, d'ailleurs, elle pourrait se désintégrer, hein, au moment du passage au Périhélie. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle est en train de se fragmenter à l'heure actuelle. Pourquoi elle va se fragmenter? Parce que les comètes, eh bien, lorsqu'elles sont au Périhélie, comme ça, hein, au plus proche du Soleil, leur vitesse va augmenter énormément. Donc déjà, il y a l'effet de la chaleur du Soleil, mais il y a aussi les forces, hein, dites de marée, c'est-à-dire qu'elle est très fortement attirée par le Soleil, mais du fait de sa vitesse, puisqu'elle accélère, elle va avoir tendance à s'éloigner du Soleil, elle est donc soumise à des forces contraires colossales. Et pour donner un ordre de grandeur, hein, Tsuchisan, c'est 2024 S1 Atlas, actuellement, là aujourd'hui, elle est à 60 km par seconde, et elle sera quasiment, hein, à 600 km par seconde au plus proche du Soleil. Alors autant vous dire que son passage au plus près du Soleil ne va pas être de tout repos, et elle pourrait d'ailleurs se fragmenter même avant le moment où elle soit au plus proche du Soleil. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays de l'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. On se retrouve le lundi 18 novembre. Eh bien, je te laisse le mot de la fin, Véronique.
Merci de cette invitation, et nous espérons vous voir à l'Observatoire le 26 octobre prochain pour partager un peu plus de l'astrologie et l'astronomie en lien.
Eh bien merci, je serai ravi, hein, d'être avec toi aussi à l'Observatoire.
Merci.
Au revoir.